Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin notre confrère Rhys, directeur de Charlie Hebdo.
Bonjour Rhys.
Bonjour.
1 minute 49 secondes, c'est donc le titre de votre livre qui sort demain aux éditions Actes Sud. C'est le temps qui s'est déroulé entre l'irruption des frères Kouachi, la fusillade au sein de votre journal Charlie Hebdo, qui a laissé plusieurs de vos amis à terre, et le départ des terroristes. 1 minute 49 secondes, ce moment interminable, vous le revivez souvent ? Encore ? Sans cesse ?
Le revivre, c'est peut-être exagéré, mais c'est vrai qu'on y pense tout, oui, régulièrement. Voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Voilà, ça fait partie de notre vie. Voilà.
Et vous arrivez à raconter ce qui s'est passé en dehors de l'écriture ?
Ça dépend à qui. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ça. C'est vrai que ça dépend à qui, en fait. C'est vrai que c'est plus facile d'en discuter avec les gens qui étaient avec moi dans la pièce, parce qu'on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que quand c'est pas facile de parler de ça avec des gens qui n'étaient pas là, parce qu'ils ont du mal à comprendre, et puis ils n'ont peut-être pas envie de tout savoir, quoi. Voilà.
Et c'était important pour vous de coucher sur le papier, sur l'écrit, ce qui s'était passé exactement, c'est-à-dire que vous êtes entré dans le détail. Mmh. Il y a 4 pages où vous égrenez seconde après seconde.
Bah, c'est un peu c'est ce que j'ai utilisé comme procédé pour essayer de communiquer au lecteur ce que j'avais en tête quand ça se passait. Je comptais les secondes. Voilà, je comptais les secondes et je me disais que chaque seconde allait être la dernière, et puis une autre seconde arrivait, et c'était pas la dernière, et une autre seconde arrivait. Voilà, donc chaque seconde aurait dû être la dernière, en fait.
Voilà. Je reprends d'ailleurs ce que vous écrivez. 11h34 minutes 47 secondes, ils entrent. 11h34 minutes 48 secondes, je suis vivant. 11h35 minutes 36 secondes, ils sortent. Je suis vivant, je ne suis pas mort. Vous êtes à moitié vivant, à moitié mort aujourd'hui. Vous êtes un survivant.
Bon, le terme survivant, c'est un terme un peu vague, mais c'est vrai que on meurt un peu ce jour-là aussi. Il y a quelque chose de vous qui disparaît pour toujours. Donc on constate quand on sort de là qu'on est toujours un peu vivant, mais il y a une partie de vous qui a été détruite, c'est sûr et certain.
Vous avez, en repensant à l'interview d'un rescapé au Liberia que vous aviez fait il y a longtemps, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Liberia, vous dites dans votre livre « Un rescapé ne pourra plus jamais être intégralement vivant, un rescapé comme un chêne touché par la foudre ». C'est comme ça que vous vous sentez ?
Oui, c'est l'image qui me semble la plus juste. Hein. À moitié vivant, à moitié mort. Il y a encore des branches un peu vertes, mais il y a une partie des branches qui sont mortes pour toujours. Voilà, c'est un peu la métaphore qui me semble la plus proche de ça, quoi.
Mais est-ce que l'écriture vous a quand même permis de mettre un peu à distance, ou pas du tout, les souffrances ?
Non, ça n'est pas de distance, mais ça permet d'y voir un peu plus clair, parce que dans les jours, même dans les mois qui ont suivi tout ça, c'était un véritable chaos, que ce soit dans le journal, que ce soit chacun dans nos têtes, donc il faut du temps avant d'y voir clair, en fait. On a l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver pendant des mois et des mois, quoi. Donc c'est vrai que parfois on ressasse des choses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On se demande même des fois si on va pas perdre un peu la raison. Donc le fait d'écrire ça, ça permet d'y voir un peu plus clair soi-même, et puis parce qu'on s'oblige aussi à rendre les choses claires pour le lecteur. Enfin, moi, j'ai écrit ça pour le lecteur, pour que le lecteur tente d'y voir un peu plus clair dans ça. Donc, c'est d'abord fait pour le lecteur.
L'expression « le temps fait son œuvre », ça veut dire quelque chose pour vous, ou c'est trop tôt encore pour le dire ?
Maintenant, 5 ans après, oui, je me rends compte que ça fait quand même un peu son œuvre. Mais, ça n'effacera rien. Voilà, c'est tout. On vit avec ça, c'est comme quelqu'un qu'on ampute. Bon, ben, il continue sa vie, mais il continue sa vie avec une moitié de son corps. Voilà, donc c'est vrai, on continue de vivre, mais c'est plus la vie d'avant, ça c'est sûr et certain.
Et vous parlez de votre corps, et sans doute que votre blessure à l'épaule vous rappelle.
Ben,
vous souffrez de votre épaule ?
Oui, oui, toujours, oui.
Vous avez pris une balle ?
Oui, et donc on voit aussi les limites de... Souvent, on entend le mot reconstruction, que je trouve un peu abusif. En fait, on ne reconstruit pas un corps, on ne reconstruit pas ce qui a été détruit. Ce qui est détruit n'existe plus. Donc, il faut apprendre à faire son deuil, le deuil d'une partie de son corps et le deuil d'une partie de sa vie. Voilà, ça ne reviendra pas.
Et plus jamais.
Plus jamais.
Ce qui est troublant dans votre livre, c'est que vous racontez de nombreux épisodes dans votre vie où finalement vous avez côtoyé la mort. Vous avez été assistant funéraire à la Baule quand vous étiez tout jeune. Vous avez embrassé votre grand-père sur son lit de mort. Vous avez donc interviewé ce rescapé au Liberia. Comme si tout ça vous avait préparé à rencontrer la mort en face.
C'est un peu comme ça que j'ai interpréter ces épisodes. C'est-à-dire que quand vous vivez un événement comme ce qu'on a vécu en janvier, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien quoi faire de cet événement dans sa vie. C'est un événement qui ne devrait pas être présent dans votre vie, donc vous êtes obligé d'en accepter la réalité et vous vous aidez de tout ce que vous avez vécu avant, depuis peut-être l'enfance. Vous essayez de réunir les quelques éléments qui peut-être pourraient vous aider à mieux affronter ça. Donc c'est un peu comme ça que je fais référence à ces événements passés de mon enfance ou de ma vie, même d'avant Charlie. Mm-hmm. Alors je ne sais pas si ça me préparait, mais peut-être un peu.
Mais vous écrivez « Je ne pouvais pas imaginer que les choses se dérouleraient ainsi, mais je savais que ça arriverait un jour. »
Oui, j'ai toujours pensé...
Que vous étiez en danger.
Non, c'est pas moi personnellement, mais j'ai toujours pensé que dans la vie, pas seulement ma vie, mais la violence pouvait survenir. Enfin, pour moi, c'était pas quelque chose d'abstrait. Parce que ce que je dis dans le livre, j'ai grandi... Enfin, autour de moi, tous les adultes avaient connu la guerre. Donc tous les adultes avaient quelque chose à raconter de la guerre et avaient été confrontés même physiquement à la guerre. Donc pour moi, c'était quelque chose qui pouvait arriver. D'être confronté à une violence... Une violence, c'est pas une bagarre du samedi soir, c'est pas un coup de poing dans la figure, c'est la violence qui vous anéantit. Donc pour moi, c'était possible.
Vous êtes en colère, Rhys, aujourd'hui, encore ?
Je crois qu'on sera toujours en colère, et je crois que tous les gens qui ont réussi à sortir vivants de ça seront toujours en colère. Après, il faut la canaliser, il faut la formaliser, mais oui.
Dans votre livre, vous en prenez aux collabos. En gros, à ceux qui vous disent que vous avez dépassé les bornes, que vous avez joué avec le feu, avec vos caricatures, des dérives de l'islam, etc. Vous êtes en colère contre ces gens encore ? Ces collabos, c'est qui ?
Ce terme, je l'utilise parce que je pense que quand on est confronté à une idéologie totalitaire, il y a des choix à faire, faut prendre position, et ce qui est étonnant, c'est de voir que des gens s'accommodent assez facilement de ça. Et quand je dis des gens,
des
parfois,
dérives de la laïcité, des dérives des communautarismes, c'est ça?
Oui, qui trouvent toujours des raisons d'atténuer, de s'accommoder, de dire que finalement c'est pas si grave. C'est dans ce sens-là que j'emploie le terme collabo, c'est-à-dire que c'est pas forcément une collaboration idéologique, c'est pas forcément une adhésion idéologique, mais c'est on s'accommode, quoi. Voilà. Et de fait, on devient collabo. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu trahi. On croit qu'on vit dans une démocratie où tout le monde...
Mais c'est qui précisément ?
C'est des intellectuels.
Est-ce que c'est la gauche, une partie de la gauche ?
Oui, on peut dire qu'il y a une partie de la gauche, pas toute la gauche. C'est une partie des intellectuels, pas tous les intellectuels, mais c'est vrai que c'est quand même un
les
peu...
Les élites ?
Certaines, on ne peut pas généraliser, mais c'est vrai que c'est quand même un peu douloureux de voir que des gens dont on pensait qu'ils étaient des modèles, enfin pour moi c'était des références.
Vous pouvez donner des noms ?
Non, c'est au lecteur, je veux dire, de comprendre ça, c'est pour éveiller l'attention du lecteur à cette question-là. Moi je ne suis pas là pour faire des procès, mais c'est quand même pour poser le doigt sur ce problème-là, de ce qu'on appelle habituellement la trahison des élites, mais il y a de ça.
Vous trouvez que la République a lâché l'affaire sur la laïcité ou sur les... ce que je disais, les dérives communautaristes ?
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est pas à l'aise et qu'elle n'a pas encore trouvé la solution pour donner la bonne réponse. J'ai parfois l'impression que c'est... elle tâtonne, quoi. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas un problème facile, mais c'est vrai que parfois, par facilité, on a tendance à regarder ailleurs parce que c'est vrai que c'est des problèmes qui sont très compliqués à aborder et à gérer.
Rhys, vous dites dans le livre « Adieu est le plus beau mot de la langue française ». Adieu pour un incroyant, un agnostique, c'est fort,
oui,
non ?
Je précise aussi, c'est un mot qui dit le contraire de ce que ça prétend. Quoi. Oui, c'est un mot définitif et puis c'est un mot courageux parce que quand on dit adieu, c'est que c'est fini. Voilà.
Donc vous avez encore du courage. La couverture de votre livre, un œil, c'est un œil. Qu'est-ce que ça représente exactement ?
C'est un détail d'un tableau que j'évoque dans le livre. Ce que j'aimais bien quand j'étais gamin, c'était le chasseur à cheval de Jéricho. Et c'est l'œil du cheval, voilà, qui est traversé par la folie parce qu'il a vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Voilà.
Vous ne sombrez pas dans la folie ?
Ben, j'espère.
Non, je vous rassure. Merci beaucoup, Rhys, d'être venu nous voir pour nous parler de votre livre. 1 minute 49 secondes aux éditions Actes Sud. Il sort demain. Merci.
Rhys qui dénonce au micro d'RTL l'école labo d'une idéologie totalitaire, en tout cas celle du terrorisme islamiste. Merci infiniment à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver